Alors, bonjour, je m'appelle Smith, je suis artiste et cette année j'étais enseignant pour un groupe d'étudiants de deuxième année au Frénois.
Donc le Frénois, vous connaissez depuis longtemps et même avant, je crois que vos parents ont une relation particulière avec ce lieu.
Absolument. Alors ma première rencontre personnelle avec le Frénois, ça a été en 2010, puisque j'ai intégré l'école comme étudiant pour deux années, où j'ai eu la chance de faire deux œuvres, dont une qui a été supervisée, mentorée, je ne sais pas quel serait le mot exact, par Mathieu Amalric. Ça a été mon premier film. Et ensuite, en deuxième année, j'avais fait un projet qui avait à voir avec la question du fantôme. Et j'ai appris à l'occasion de mon séjour de deux ans au Frénois, de mon père, que ses propres parents, c'est-à-dire mon grand-père et ma grand-mère paternelle, se sont rencontrés au Frénois à l'époque où c'était un dancing. On ne le rappelle pas assez souvent, mais avant d'être l'école et le centre d'art qu'on connaît, c'était un lieu destiné à accueillir les travailleurs de la région. Et mon grand-père était un soldat anglais qui a été déplacé en France pour s'occuper de fleurir les cimetières militaires britanniques aux alentours de la ville de Lille. Et ma grand-mère a eu plusieurs travaux comme secrétaire médicale, où elle a travaillé dans des usines, tout ça aux alentours de Lille. Donc ils se sont rencontrés ici et je ne le savais pas au moment où j'étais étudiant, je l'ai appris plus tard. Et donc en revenant ici, je me suis dit que c'était indispensable que je fasse un clin d'œil à cette histoire personnelle dans l'œuvre que j'allais créer.
Alors c'est vrai que le Frénois, il y avait bien sûr une salle de bal, etc. C'est un complexe de loisirs, on peut dire ça comme ça. Il y avait du sport, il y avait le cinéma déjà à l'époque. Et d'ailleurs, dans ce lieu ici aujourd'hui, on a conservé les lettres qu'on utilisait pour titrer les films de l'époque.
C'est vrai. Je pense qu'il y a des rappels. Quand on commence à y prêter attention, on se rend compte effectivement que la forme de la nef, que l'entrée du cinéma, que certaines entrées du Frénois ont été conservées telles quelles, puisque l'architecte Tchoumi, qui a construit le Frénois tel qu'on le connaît aujourd'hui, a conservé une immense partie de l'architecture originale et a construit cette espèce de chape de verre tout autour où sont situés aujourd'hui les locaux dans lesquels on produit les œuvres, notamment les salles de montage, d'effets spéciaux, les salles de répétition, etc. sont tout autour en fait des lieux originaux qui ont toujours leur même fonction, sauf que la fête a été remplacée par l'exposition. Mais c'est une mutation assez légère, il s'agit toujours d'accueillir des spectateurs qui vont s'amuser, découvrir des choses, etc. Et c'est vrai que moi j'ai toujours perçu ici, avant même de connaître toute cette histoire, soit comme visiteur, soit comme étudiant, soit aujourd'hui comme enseignant, j'ai toujours perçu qu'il y avait une histoire ici qui est toujours tangible, qui se manifeste toujours à un moment ou à un autre. Et quand on passe la nuit ici, par exemple, quand on est prof ici, on dort dans les chambres du Frénois, on entend toujours des bruits étranges, on sent des présences, on sent comme si toute cette vie antérieure qui avait été celle du Frénois se manifestait, trouvait toujours des moyens de se manifester d'une manière ou d'une autre dans les lieux. Et je trouve même que la plupart des œuvres qui sont montrées ici, qui ont très souvent un lien avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire les technologies de l'invisible, on voit des choses, mais on ne voit pas comment c'est fait. On ne voit pas que pour quasiment toutes ces installations un peu merveilleuses, avec des lumières, des bruits, des couleurs, des sons, souvent des choses à distance, des casques qui nous emmènent dans un autre monde, etc. Tout ça, en fait, c'est soutenu par des ordinateurs, des grosses machines, un travail qui est rendu complètement invisible et on a accès qu'à la partie magique. Et toute cette chose invisible qui travaille en silence, pour moi, ça a à voir avec le fantôme. Et ici, on les sent vraiment, quoi.
Donc là, en plein cœur de cette grande nef du Frénois, vous avez une œuvre que vous présentez.
Oui. Alors, elle est juste au-dessus de notre tête parce que c'est une œuvre aérienne, on va dire, qui est située tout au fond de la nef principale, qui s'appelle l'Extase de Monsieur Patate ou le vaisseau pomme de terre. C'est une sculpture assez grande qui est basée sur une photogrammétrie de mon propre corps. Une photogrammétrie, c'est une prise de vue à 360 degrés qui permet en fait de reconstituer très précisément un corps, quel qu'il soit, par exemple un corps humain, ensuite en volume par l'intermédiaire de l'impression en trois dimensions. Donc en fait, ça ressemble à un être humain qui serait peut-être une version un peu spéciale de moi-même, mais qui, d'une part, est en lévitation, c'est-à-dire il est déjà présenté dans une condition agravitaire, c'est-à-dire détaché de notre obligation à être cloué au sol par l'effet de la gravité. Donc il est comme ça, comme en lévitation, d'une part. Et d'autre part, ce qu'on remarque, c'est que ses membres sont en train d'être remplacés progressivement par des tubercules, des sortes de ramifications comme ça, végétales, qui font de lui un genre d'hybride que j'aime bien appeler un sympoïète, c'est-à-dire une créature qui est constituée comme une sorte de chimère, en fait, de différentes formes. C'est à la fois une patate avec ses tubercules, un élément végétal, un être humain dont on perçoit encore la forme générale. Mais il y a aussi quelque chose à voir avec l'insecte, parce que cette sculpture est creuse et transparente. Et j'ai essayé de la penser et de la construire comme l'exuvie d'un insecte, c'est-à-dire la mue que l'insecte dépose derrière lui, ou le serpent, ou d'autres espèces, dépose derrière lui au moment de sa croissance. Et en fait, cette mue, elle est à la fois une façon pour lui de poursuivre sa croissance, de prendre une forme souvent plus grande, mais aussi de laisser derrière lui toutes les toxines et les choses dont son corps n'a plus besoin. C'est comme un genre de déchet. Et en fait, cette mue, la mienne, cette exuvie, elle est constituée, elle est imprimée en trois dimensions. Et la technique que j'ai utilisée, c'est d'utiliser un fil de plastique qui est issu du recyclage de déchets de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que cette mue, quelque part, est faite à partir de déchets de seringues, d'emballages de médicaments, etc. Et pour moi, c'est vraiment un rappel que la façon dont on vit aujourd'hui dans nos métropoles et la façon contemporaine de vivre, c'est d'être en permanence en interaction, comme avec des fantômes, avec des éléments qui nous sont extérieurs, parce qu'on mange, par exemple, tous les produits avec des OGM, etc., dont on se nourrit, tous les traitements qu'on prend en permanence modifie notre microbiote, c'est-à-dire notre paysage intestinal intérieur, et que ce microbiote définit complètement notre manière de penser, notre manière de vivre, notre manière d'être dans notre environnement. Et en fait, je considère qu'aujourd'hui, la manière dont on vit, la manière dont on se nourrit, dont on respire, nous expose en permanence à des particules étrangères qui sont parfois bonnes pour nous, certaines bactéries, mais qui sont parfois toxiques, notamment tout ce qui est issu de l'industrie pétrochimique, de la nourriture OGM modifiée, etc. Et quelque part, cette mue essaye d'imaginer qu'on puisse laisser derrière nous toutes ces toxines au sens très très large auxquelles on est exposé en permanence et qui nous constituent des déchets de l'industrie plastique.
Alors, cette pomme de terre, évidemment, est très liée à la nourriture de l'homme dans notre région, Hauts-de-France, du Nord en général. Hein. Et donc, elle a alimenté l'homme pendant des générations. Elle est encore un aliment, hein, d'une certaine manière, plus répandue même, alors avec ses déclinaisons dont on pourrait parler, avec ses nuisances maintenant.
Ben, ce qui m'intéressait, c'était donc comme j'avais cette envie d'inscrire cette pièce-là dans son environnement plus large, c'est-à-dire à la fois ben, cette région où forcément s'origine une partie moi de ma famille, puisque ma grand-mère paternelle vient ici, de la région, très directement. Et j'avais envie que ce soit aussi un clin d'œil à quelque chose à la région à titre plus large que simplement le Frénois. Et moi, dans mes souvenirs avec ma grand-mère, un de mes plus grands souvenirs, c'est manger des frites. Donc cette présence de la pomme de terre, effectivement, dans la culture populaire, culinaire du nord de la France, c'est un élément qui me semblait assez important pour être symbolique. Ce qui me permet à la fois, à titre artistique, de ramener l'élément végétal dans ce sympoyette dont je voulais qu'il soit un hybride d'humain, de végétal, d'animal, d'insecte, de technologie, etc. Mais ça me permet de ramener pas n'importe quel élément végétal, mais un élément, on pourrait dire, presque endémique, vraiment local. Et à la fois, ben, il y a donc effectivement les qualités de la pomme de terre, c'est-à-dire la facilité à faire pousser cette tubercule, le fait que ce soit quand même assez nourrissant pour pouvoir des fois constituer le seul aliment pour beaucoup de gens, mais c'est aussi le symbole aujourd'hui de ce qu'on appelle la malbouffe, c'est-à-dire la façon dont elle est transformée avec des produits qui vont être des additifs gustatifs, etc., ou de conservation. On sait très bien qu'on achète des produits industriels, ils sont modifiés, transformés, ils deviennent néfastes. Ça les dépossède de leur qualité nutritive et ça les remplace par des choses qui donnent du goût, qui rendent addicts, mais qui ne sont pas du tout nourrissants. Et en fait, pour on s'est tellement, nous, humains contemporains, habitués à être dépendants quelque part à ce gras, ce sucré, ce salé en permanence, dont la pomme de terre, dont la frite, les chips sont un peu un symbole, que en fait notre goût est complètement on pourrait dire transformé par ces très mauvaises habitudes, et ça nous transforme non seulement nous, parce qu'on sait qu'à terme c'est cancérogène de se nourrir comme ça de ce type de nourriture, mais ça n'est pas seulement toxique et néfaste pour nous, ça l'est aussi pour la terre, parce que pour subvenir à cette demande croissante de consommation comme ça de produits industriels peu coûteux, rassasiants, etc., il faut bien que ça pousse quelque part, et donc il y a un phénomène qui se produit depuis plusieurs dizaines d'années aujourd'hui, mais qui a atteint un point critique, c'est que tous les paysages, toute la biodiversité locale, les bocages, etc., qui étaient des paysages autrefois consacrés à des cultures qui n'étaient pas uniques, et évidemment d'autres fruits, d'autres légumes, d'autres, évidemment l'agriculture en général, qui peut produire d'autres choses que des pommes de terre, toutes les terres qui étaient comme ça consacrées à produire de la diversité alimentaire sont rachetées souvent par d'autres pays aussi, par la Belgique, la Hollande, etc., qui vont acheter, parce qu'ils n'ont plus de terre, leur pays étant plus petit, des hectares et des hectares de terres fertiles qui vont transformer en monoculture de pommes de terre, qui est négative pour la biodiversité, les bocages, les oiseaux, tout l'écosystème qui auparavant pouvait se nourrir de, d'autres résidus de l'agriculture plus large, mais aussi ça dévaste complètement le paysage. Donc en termes de biodiversité, en termes évidemment de beauté de ces paysages et en termes surtout de devenir de ces sols, parce que ça les transforme profondément et ça les rend impropres ensuite à y faire pousser quoi que ce soit d'autre, c'est d'une certaine façon un micro-désastre écologique qui se produit là tout autour des paysages où on est. Donc pour moi, il y a vraiment, avec cette œuvre-là, la volonté de parler de ça, c'est-à-dire des devenirs de notre espèce, de notre humanité, d'une part en prenant en compte et en considération le fait qu'on est en permanence en lien avec d'autres choses qui nous constituent, parce qu'on mange, parce qu'on respire, comme je disais tout à l'heure, il faut prendre en compte le fait qu'il y ait d'autres êtres vivants, pas forcément des humains ni des animaux, ça peut être des végétaux, etc., qui sont autour de nous et dont il faut qu'on prenne soin, parce qu'ils font partie de nous. In fine, sous une forme ou une autre, on fait partie de la même équipe des terriens, quelque part, et il y a un besoin, je pense, urgentissime, qui a à voir évidemment avec l'écologie, à prendre en considération, à prendre soin de ces autres formes de vie, c'est-à-dire prendre soin de la terre, comment on la cultive, comment il faut ne pas l'épuiser, comment il faut encourager la biodiversité, comment il faut aussi à titre personnel faire attention à comment on se nourrit, à comment on se comporte, à comment, quel est notre rapport, quel geste on a par rapport aux humains, aux non-humains et aux autres créatures terrestres, animales et végétales qui peuplent notre planète.
Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la dénaturation de ce qu'on mange, les transformations justement de l'industrie agroalimentaire et l'intelligence artificielle dans les process artistiques ?
Alors moi, c'est une excellente question et c'est une très vaste question et je pense qu'elle s'applique à beaucoup d'œuvres les plus contemporaines en fait du Frénois, parce qu'à chaque année au Frénois, quand on y revient, ce qui est votre cas depuis longtemps, on voit souvent des technologies qui vont prendre le pas sur tout le reste et devenir vraiment des points d'intérêt saillants pour les étudiants. Par exemple, on a vu il y a une quinzaine d'années les débuts des œuvres interactives où d'un seul coup le spectateur était très souvent invité à interagir avec l'œuvre. C'est presque plus le cas aujourd'hui. Là, c'est beaucoup des casques de réalité virtuelle par exemple, ce qui était évidemment il n'y a pas le cas du tout il y a 15 ans. Et c'est aussi beaucoup l'utilisation de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes, mais essentiellement sous les formes qu'on appelle génératives, c'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle pour générer des images à partir de commandes qu'on va lui donner, ce qu'on appelle des prompts, donc c'est comme si on lui donnait une commande, mais aussi en ce qu'on appelle entraîner une intelligence artificielle, c'est-à-dire lui donner des choses existantes, des mots, des images, des œuvres, et lui dire voilà, à partir de ça, tu vas utiliser ces formes pour créer quelque chose de nouveau. Donc l'IA devient vraiment pour nous, souvent elle est présentée dans le grand public comme étant quelque chose de terrifiant, qui va tous nous remplacer, où il y a beaucoup de collectifs d'artistes qui essayent de lutter contre la prolifération de l'intelligence artificielle dans les médias, etc. Parce que bien sûr, on a peur que ça efface l'auteur, que non seulement elle se nourrit de notre travail, et ensuite elle fait mieux que nous. Donc comment nous en sortir comme auteur, etc. Moi, pour le moment, j'ai une approche de l'IA qui est plutôt curieuse. C'est-à-dire que je suis assez fascinée par sa puissance et je suis aussi heureux d'avoir la possibilité de travailler avec elle quelque part à ses prémices. On est vraiment à un niveau de l'IA où elle est encore très peu avancée par rapport à ce qui se promet dans ses développements. Et effectivement, comme votre question le suggère, j'essaye de voir comment, plutôt que nous remplacer, annuler l'humain, son pouvoir créatif, etc., elle peut nous aider à penser et elle peut même accompagner des idées qui seraient très très difficiles sans elle à être actualisées. Donc par exemple, je m'intéresse beaucoup et je pense que cette pièce-là parle de ça aussi, au compost. C'est-à-dire le compost qu'on visualise souvent comme ça, notre premier instinct, c'est de penser à un gros tas de détritus un peu dégoûtant en décomposition. Or, le compost, en fait, c'est vraiment, pour moi, le symbole de la vie, quoi. C'est vraiment toutes les espèces, toutes les matières organiques se retrouvent comme ça, effectivement, à un moment sur ce tas, quoi, sur ce tas étrange de matières organiques en décomposition. Et c'est de ça dont la vie va procéder. C'est-à-dire la vie va naître dans ce tas de choses qui sont en train de se défaire. Et c'est vraiment le compost, une figure de la mutation, de la métamorphose, de la transformation perpétuelle, de la renaissance, pourquoi pas de la réincarnation. Le compost raconte tout ça. Donc il n'y a pas plus fertile que du compost à tous les niveaux, en termes organiques, mais aussi en termes d'imaginaire, quoi. Et ce que j'ai demandé à l'IA, donc j'ai fait intervenir une intelligence artificielle dans cette pièce, je lui ai donné un certain nombre d'images dont je lui ai demandé de se nourrir. Des images de frites, par exemple. Donc elle a mangé des frites. Elle a mangé aussi des souvenirs. Je lui ai raconté des souvenirs qui m'appartiennent ou imaginaires, comme la rencontre de mes grands-parents ici, à laquelle je n'ai pas assisté, mais je lui ai raconté. Et je lui ai dit, voilà, tous ces souvenirs-là qui sont liés pour moi à cette région, j'aimerais que tu les mettes en images. Donc elle m'a créé des images comme ça, elle a mis en images mes souvenirs. Ça a été la première étape. Et la seconde image, c'est que je lui ai demandé de décomposer ces images en agissant comme si elle était du compost. C'est-à-dire que pour que le compost désagrège les choses qu'on y met, il travaille avec parfois l'oxygène, parfois avec des bactéries, parfois avec des vers. Enfin, il y a tout un système qui se met en place pour décomposer et transformer ce qu'on met dans le compost. Et donc j'ai demandé à l'IA, chose impossible à faire sans elle, de décomposer ces images-là, ces souvenirs, ces images, comme si c'était de la matière organique et qu'elle était... tous ces agents qui vont la transformer en compost. Et donc, la sculpture donne l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, comme si c'était un corps transparent dont on voyait le microbiote, dont on voyait le système intestinal de transformation et de modification des nutriments. Et ce microbiote-là, le microbiote de cette exuvie, de cette mue d'insectes patatoïdes humanoïdes, c'est... des images, des souvenirs décomposés par l'intelligence artificielle. Donc c'est parfaitement abstrait, mais toutefois, si on reste assez longtemps, si on force vraiment son regard à essayer de déceler des images, on va voir des éclairs, on va voir des cendres, on va voir des étincelles, des petits feux follets, enfin on va voir tout un tas de petits phénomènes comme ça, presque climatiques ou organiques, qui vont donner des petits indices sur cette matière dont l'œuvre a été nourrie.
Alors l'intelligence artificielle, elle puise... dans notre idée, hein, plutôt dans ce qui existe déjà comme écrit, comme image, donc elle puise dans des banques énormes d'images. Donc on pourrait dire qu'elle ne peut restituer que la réalité qui est à sa disposition. Mais elle utilise aussi parfois des œuvres de créateurs qui ont des idées originales, peut-être même particulières ou qui peuvent être inquiétantes ou non, hein, mais il y a quand même eu dans le temps des gens qui ont une imagination fertile. Est-ce que cette imagination de quelques auteurs très particuliers peut être amplifiée par l'IA jusqu'à être dangereuse ?
Ben, vous posez une question absolument fondamentale. Évidemment, je ne suis pas du tout en mesure de répondre parce que ce serait quasiment une prophétie. Mais... mon impression pour l'instant, moi j'ai toujours beaucoup de curiosité quand une nouvelle technologie apparaît, c'est-à-dire j'ai envie de la connaître, j'ai envie de l'essayer, j'ai envie de voir ce que je peux faire avec. Et c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pris l'habitude, lorsque dans mon travail interviennent des outils particuliers, j'utilise beaucoup la caméra thermique par exemple, que j'ai découverte quand j'étais ici au Fresnoy étudiant il y a très longtemps. Ça peut être des technologies de création comme l'intelligence artificielle générative, etc. Je commence toujours par la curiosité avant la méfiance, c'est-à-dire j'essaye par moi-même. Et là c'est vrai que ce que j'ai réussi à faire avec cette IA, enfin moi j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai travaillé quelques heures et elle a travaillé pendant des semaines, je suis satisfait dans le sens où j'ai l'impression que cette façon-là de l'utiliser, c'est comme quelque part les artistes qui à l'époque faisaient, je sais pas, peindre leurs commandes par leurs assistants, qui étaient capables d'imiter leur style parfaitement, voire même d'y apporter quelque chose d'autre qui magnifiait au final l'œuvre originale de tel peintre. Ou voilà. Moi, pour le moment, je l'ai utilisé un petit peu comme ça, c'est-à-dire je reste chef d'orchestre, je reste un petit peu la tête, et l'IA exécute, et elle exécute en amenant des choses un petit peu inattendues. Ça, c'est la première chose que moi j'ai observée, et je trouve qu'on peut aujourd'hui travailler avec elle de cette manière-là. Le problème, et effectivement c'est quelque chose qui se pose, c'est qu'on peut très bien dire à une intelligence artificielle, voilà, écris-moi une chanson à la manière de Nick Cave, ou dessine-moi un mouton à la même manière de Saint-Exupéry par exemple, et elle est capable, elle, de répondre à ça. Mais j'enfonce peut-être une porte ouverte en disant ça, mais à l'heure actuelle, et pourtant j'ai lu beaucoup de science-fiction qui imagine un monde très souvent remplacé par les robots, remplacé par les IA, etc., la science-fiction a très bien fait ce travail d'anticipation paranoïaque, on va dire, et on peut se référer à elle pour imaginer un tel monde, mais j'ai l'intuition que ce qui lui manque et ce qui lui manquera a priori jusqu'à ce qu'elle soit capable d'avoir une expérience, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose qui va, je ne sais pas s'il y a une âme ou pas, mais en tout cas nous on en a une, et elle est façonnée par nos expériences physiques, corporelles. C'est-à-dire on n'est pas une pure, on n'est pas un pur esprit, on vit des choses. Ça peut être un traumatisme, ça peut être mettre sa main dans le feu et avoir expérimenté cette douleur, ça peut avoir vivre des choses terribles ou au contraire magnifiques, ça peut avoir en tout cas tout ce à quoi on a accès grâce à notre corps, produit une expérience du monde que l'IA ne pourra jamais avoir. Jusqu'à ce que peut-être on mette des IA dans la tête de personnes et qu'elles soient capables de vivre ces expériences-là, c'est pas possible. Et je pense que justement c'est cette singularité de l'expérience humaine particulière, différente pour absolument chaque individu, qui nourrit, qui apporte bah justement son âme à une œuvre, quoi. C'est-à-dire ce je ne sais quoi, cette magie, ce miracle qui se produit à chaque fois qu'il y a œuvre, l'IA en est pas capable. Donc elle va très certainement rapidement nous surpasser en termes techniques, technologiques, visuels, de virtuosité à tous les niveaux, de composition, d'écriture. Mais ça, pour le moment, il n'est même pas capable d'imaginer de quelle manière elle pourrait gagner quelque chose comme une âme.
Et donc cette IA, quand vous faites appel à elle, est-ce qu'elle vous propose plusieurs possibilités, plusieurs scénarios, enfin plusieurs entités en disant voilà, il peut y avoir ça, ça, ça? Ou est-ce que bah, vous avez quelque chose qui est relativement irréversible? C'est un produit qui est complexe, compliqué, qu'on ne peut pas remettre en forme à partir d'autres paramètres. Hein. Ou est-ce que vous avez aussi la possibilité de détecter dans ce qui est proposé par l'IA des choses dont vous ne voulez pas et que vous voulez retirer du processus?
Alors un petit peu les deux en réalité, parce qu'aujourd'hui, même si les technologies sont impressionnantes, elles sont quand même à leur premier stade, c'est-à-dire on est quand même en train de tâtonner. Il y a de plus en plus d'entreprises, de logiciels qui créent des solutions et qui créent leurs différentes IA, voilà, Midjourney, ChatGPT, des trucs comme ça. À chaque fois, c'est des propositions différentes. Aujourd'hui, il est assez... En fait, une IA, c'est pour ça qu'on utilise l'idée d'entraînement, c'est que plus on passe de temps à lui demander de préciser, en fait, à préciser nos demandes, plutôt à préciser les demandes qu'on lui fait, plus elle va devenir pointue. Et ça, ça nécessite, en tout cas quand on fait de la vidéo ou quand on fait des œuvres plus complexes que des simples images, ça nécessite quand même un certain temps. C'est-à-dire que pour faire une vidéo d'une demi-heure, elle va mettre plusieurs heures à faire une première proposition. Et si on veut modifier ne serait-ce qu'une chose, il faut tout remettre dans la moulinette et elle recommence à zéro. Donc c'est vraiment comme quelqu'un qui partirait de zéro en termes physiques et qui déciderait de devenir bodybuilder, quoi. Ça va prendre des années. Bah pour l'IA, c'est un petit peu la même chose. Donc ça veut dire qu'il faut quand même l'entraîner comme si on entraînait un étudiant et qu'on était coach, quoi, à progresser à chaque fois. Sachant que quand on fait ça individuellement, ça entraîne aussi plus généralement l'IA en général. C'est-à-dire qu'on contribue à notre niveau, à notre relation avec notre petite IA à quelque chose, et puis ça nourrit le monstre, en fait, d'une certaine façon. Donc pour le moment, ça prend quand même un certain temps, ça a un certain coût, parce qu'il faut des machines puissantes, il faut avoir beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que si souvent les étudiants, on travaille avec un ingénieur à qui on va confier la tâche d'entraîner nos IA, etc. Certains étudiants le font eux-mêmes, mais souvent on a une équipe, etc., parce que c'est du temps, et c'est aussi apprendre quelque part à communiquer avec la machine. Et moi, ça, je trouve ça très beau, parce que ça me rappelle vraiment, il y a quelque chose d'assez similaire avec le fait d'élever un animal, par exemple, d'élever un chiot, d'élever un poulain. C'est-à-dire qu'il faut tout lui apprendre, il faut lui apprendre à respecter nos demandes, à retenir quelque chose. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez justement organique, pédagogique, dans cette transmission-là, que je trouve assez beau et intéressant. Après, on est peut-être en train de nourrir le monstre qui va nous manger. Ça, on ne le sait pas encore, mais en tout cas, il y a ça. Donc je ne sais plus, oui, ça, vous m'aviez posé cette question de comment on peut modifier. Bah, là, par exemple... Une fois qu'on a la vidéo, par exemple en termes vidéo que nous a donné l'intelligence artificielle, on peut très bien ensuite la retravailler comme on retravaillerait une vidéo traditionnelle, mais on ne peut pas tout changer, quoi. C'est-à-dire.
Alors pour ceux qui créent des œuvres à partir de l'IA pour défendre un projet écologique, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre utiliser des ressources de l'IA, c'est-à-dire tout le background qui sert et qu'il faut bien alimenter en énergie et en pollution, hein, pour servir un propos écologique? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction?
Ben là, vous avez totalement raison, et je pense que cette question-là, elle se pose d'autant plus dans cette édition de Panorama, où de plus en plus d'artistes, pas seulement ici, je pense dans le monde entier, on est peut-être que c'est l'art et peut-être la partie du monde dans laquelle on se pose avec le plus d'angoisse ces questions-là, en tout cas manifestement plus que les politiques. Et une immense partie des œuvres présentées ici, la mienne en fait partie, soit parle de quelque chose de très personnel. C'est très fréquent et c'est assez nouveau dans Panorama aussi. C'est moins des sujets généraux. Ça part très souvent d'une histoire intime, personnelle, d'un ressenti et d'une préoccupation écologique. Et souvent, c'est les deux mélangés. Et effectivement, la question que vous posez se pose particulièrement cette année à cause de cette attention particulière aux problématiques écologiques mondiales en général. Et là, on se retrouve effectivement face à un genre de dilemme. C'est-à-dire, d'une part, on est au Frénois, qui est un lieu qui est, dont la renommée et dont l'objectif est justement de... articuler création artistique et nouvelles technologies, et par nouvelles technologies, l'immense majorité du temps, ce sont des technologies qui nécessitent l'usage de machines, de logiciels et de machines puissantes. Et comme c'est aussi beaucoup une école de l'image, il y a parfois des performances, des choses comme ça, mais l'immense majorité du temps, ça produit des films ou des installations ou des choses qui ont à voir avec la matérialité, des œuvres plastiques, visuelles, etc. Forcément, on a besoin de projecteurs, on a besoin de cartes mémoire, on a besoin de disques durs, enfin en tout cas, on a besoin de machines pleine de minéraux rares dont l'extraction pose une question écologique et humaine, et évidemment politique, etc. Et puis sans parler des ressources électriques, électroniques et tout ça. Je pense que ça, on en est conscient, mais qu'aujourd'hui, on manque. Et là encore, je pense que c'est aussi une volonté politique, mais il y a très, très, très peu d'investissements qui sont faits pour les technologies, on va dire, vertes, mais qui le soient vraiment, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, il ne suffit pas de dire on va remplacer les voitures à essence par des voitures électriques quand on sait très bien que les power plants d'alimentation électrique sont évidemment horriblement polluants. Fabriquer les batteries électriques, c'est une catastrophe écologique nouvelle, etc. Donc, à l'heure actuelle, nous, les artistes, on est obligés de faire avec ce qui est à notre disposition. Et comme on est étudiant ou artiste pendant seulement une année, c'est beaucoup trop court pour être à même de développer des technologies vertes et les utiliser, les mettre en place. Enfin, en un an, on n'a pas du tout le temps ni les moyens de faire de la recherche et développement. Mais par contre, j'ai entendu, là, en entendant les visites ce matin, etc., plusieurs artistes dont j'ai vraiment l'intuition que s'ils le pouvaient, le futur de leur travail irait dans cette direction-là. C'est-à-dire se poser la question de comment produire de telles œuvres sans polluer et sans en rajouter dans le réchauffement climatique avec nos disques durs, avec nos chambres refroidies d'ordinateurs en réseau, avec l'utilisation de l'IA qui repose sur le cloud et qui sont encore et encore des endroits qui nécessitent une climatisation, de la réfrigération, etc. Et là, pour le moment, on n'a pas répondu à ça. Je m'intéresse beaucoup à une notion qui est très peu connue en France, mais qui vient essentiellement du Brésil, qui s'appelle le techno-chamanisme. Et il y a plusieurs théoriciens qui en parlent. Il y en a qui en parlent pour l'histoire de l'art, comme Ed Shanken, qui est un théoricien californien. Une chercheuse qui est aussi, il me semble, à l'origine psychiatre ou docteur en neurosciences, enfin qui a à voir comme ça avec les sciences de l'esprit, et dont je viens d'oublier le nom, ça va peut-être me revenir. Bref, enfin, qui est brésilienne et qui a vraiment la première utilisé ce terme de techno-chamanisme et qui est en fait une manière de concilier les pratiques, on va dire, traditionnelles, ancestrales, le rapport à la, on va appeler ça rapidement, le rapport à la nature ou en tout cas une vie moins technologique, et concilier ça avec justement les nouvelles technologies de communication dans l'objectif, dans le but final, finalement, de accompagner la survie de peuples qui sont, par exemple, décimés par l'exploitation de la forêt amazonienne ou alors de protéger des espèces, etc. Elle donne, par exemple, l'exemple... Elle s'appelle Fabienne Borges. Et en fait, elle a notamment travaillé avec des associations au Brésil qui ont équipé en nouvelles technologies, notamment de communication, des applications, etc., qui passent complètement à côté des systèmes de contrôle, pour pouvoir se fédérer entre différentes communautés, avec à chaque fois très peu de membres, des communautés qu'on dirait indigènes, en tout cas qui vivent encore sur leurs terres ancestrales, qui protègent difficilement, parce qu'avec Bolsonaro, etc., il y a eu des agressions terribles à l'égard de tous ces peuples, et justement, essayer de trouver des solutions pour que ces personnes-là, qui sont a priori coupées des technologies, puissent les utiliser pour se fédérer et pour gagner en pouvoir politique et être finalement reconnu par le gouvernement et avoir droit à des protections de leur territoire, etc. Donc je pense qu'il y a une façon d'utiliser dans le bon sens ces technologies, mais ça ne résout toujours pas le problème de l'alimentation en électricité, en matériaux, et ça, j'aimerais bien que quelqu'un s'y penche.
Donc préserver la planète, c'est plus complexe qu'on ne le prétend parfois. Par contre, préserver la diversité, c'est peut-être quelque chose qui peut être encore un peu possible.
Il y a des efforts évidemment qui sont faits dans ce sens-là, j'imagine par des artistes, essentiellement aussi par des militants dans le monde entier, des militants écolos, mais aussi des militants humains, des gens qui luttent pour la préservation du droit à l'autodétermination des peuples, etc., pour préserver aussi des cultures ancestrales. Mais quand je parle de ça, je ne parle pas que de gestes culturels ou de langage, je parle aussi, et puis on en revient à cette histoire de pommes de terre, mais à comment on se nourrit. On sait que, par exemple, aux États-Unis, il y a des entreprises comme Monsanto, enfin, qui ne sont pas que aux États-Unis, qui sont mondiales maintenant, etc., mais qui produisent de la nourriture qui est absolument sans intérêt sur le plan nutritif, qui est absolument catastrophique sur le plan sanitaire, sur le plan écologique, sur le grand agricole en général, et qui sont tellement puissants, qui sont aussi des lobbies, et qui font que il est plus possible dans certains États de cultiver certains types de graines. Et puis ça arrive aussi en France d'ailleurs, il y a des graines anciennes, etc., qui sont disqualifiées, qui deviennent même illégales, parce qu'elles font concurrence à ces lobbies qui, par ailleurs, fonctionnent comme des lobbies, quoi. Donc ces questions-là, oui, elles sont prégnantes. Et j'ai quand même l'impression que dans les œuvres présentées cette année, même si ce n'est pas le thème, c'est comme si c'était un sous-thème, c'est un peu un arrière-thème, mais il y a vraiment cette question de qu'est-ce qui est en train d'arriver à notre monde. Et nous, on le voit, on le sait, on l'observe, on le filme, on le met en récit, on le met en forme, et on aimerait bien qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse, quoi. Et j'ai l'impression que souvent les expos de panorama, et celle-ci en particulier, fonctionnent un peu comme des sismographes, quoi. Et c'est pas un hasard si il y a à la fois ce mélange de préoccupations sur les questions écologiques, mais aussi il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui viennent de populations, de pays qu'on voit très peu dans le monde de l'art contemporain, qui sont très peu représentés. Et il y a des œuvres vraiment absolument magnifiques qui sont faites soit par des artistes qui viennent de ces pays ou de ces communautés. Il y a des artistes thaïlandais, il y a une artiste tatare qui ont fait des travaux absolument magnifiques sur justement ces questions de migration, d'éloignement, d'arrachement, de guerre, de traumatisme lié à la colonisation, à la domination, à la destruction, etc. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un genre de thème. Marta Gili, la commissaire, en parle comme des histoires peut-être vraies, peut-être pas vraies, peut-être une coïncidence avec la réalité, on ne sait pas exactement. J'ai vraiment l'impression que c'est ça dont il s'agit, quoi. C'est une mise en récit du monde tel que les artistes sismographes arrivent à le percevoir.